I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il me dit à un moment donné, soit tu payes 200$ et ouais. Tu rentres chez toi, soit tu fais les 24 heures de prison. Et en fait, à ce moment-là, franchement, 200$, c'est une somme, mais tu les payes pour pas aller en prison. Quoi.
Ouais.
Et là, je me dis, je veux savoir ce qu'il y a dans la prison. Tu vois, c'est pour ça que j'y suis allé. Quoi.
Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien, mais réalisateur de comédie, et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Alexis Le Rossignol. Merci d'être là. Écoute.
Bonsoir Montreux, est-ce que ça va? Souvent mes copains m'appellent El Chicano, El Mexicano ou Hijo de Puta parce que j'ai longtemps vécu au Mexique. J'ai découvert le Mexique avec Erasmus, moi. Vous connaissez Erasmus? Ouais, ce programme international qui permet à des étudiants étrangers fascinés par la France de venir étudier chez nous. Et à des étudiants français fascinés par la fête, d'aller dans des pays où la vie est moins chère, pour picoler, pour niquer. Voilà. Ben, j'y suis resté 7 ans.
Là, hier, t'étais sur le gala de Jérémy Crêteville et Guillermo Guise. T'as fait deux passages. Ouais. T'as fait du storytelling sur une histoire qui t'est arrivée, ouais. Qui est que t'as été en prison au Mexique. Ouais. Donc, effectivement, moi, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est vrai?
Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait. Depuis que j'ai fait ce sketch, d'ailleurs, que je joue quand même depuis assez longtemps, c'est un ancien sketch que j'ai choisi parce qu'il n'est plus dans mon spectacle. Ouais. Et c'est un storytelling et c'est un parti pris par rapport à Montreux où il y a beaucoup d'artistes qui vont faire un enchaînement de vannes,
ouais.
Sur des sujets qui peuvent être variés. Moi, j'avais à cœur de faire une histoire complète. Depuis que j'ai fait ce sketch, donc, j'ai reçu plein de témoignages de gens qui m'ont dit « Putain, ça m'est arrivé aussi » ou « J'ai mon cousin » ou « J'ai mon frère » ou machin qui ont eu cette situation-là, tu vois.
Ouais. Moi, ça n'arrive pas non plus à tout le monde, quoi.
Et donc, un soir, je sors d'un bar, j'ai un peu bu, j'ai une grosse envie, et à un moment donné, je me soulage sur un mur, tu vois. Et ça a peut-être parlé comme ex, ça, mais j'ai tellement envie que je tremble des épaules en pissant. Vous voyez ce truc-là, t'es là, oh, ça te soulage de tout ton être. Les femmes, vous le faites aussi, parfois? Quand vous pissez dans la rue? J'ai déjà vu ça, hein, entre deux bagnoles, comme ça, là. Tiens, un 75. Il doit être en vacances. Alors je suis comme ça, puis tu sais, je suis un gamin quand j'ai bu, quoi. Donc je commence à écrire mon prénom sur le mur, tu vois. Et là, j'entends une patrouille de police qui arrive, deux flics descendent, et ils me disent, bon, c'était en espagnol, je sais plus vraiment, mais un truc du genre, Buena Vista Social Club, ¿qué estás haciendo? Et moi, je suis dans cette posture-là, tu vois. Et je me dis, bah, ils savent bien ce que je fais, quoi. Je veux dire, même s'ils le font pas dans la rue, ils doivent au moins le faire chez eux. Tous les hommes du monde connaissent ce moment où t'es face à la cuvette. Hein. Même un lundi matin au bureau sobre, t'as envie de pisser dans le trou et ça part en deux gestes séparés, tu vois. Ils doivent connaître ce moment-là, quoi. Donc je me dis, je vais raconter une blague pour détendre l'atmosphère. Sauf que j'improvise, quoi. Et je leur dis, je prépare un CAP coiffure. Estoy preparando un CAP peluquería. Je m'entraîne sur mes poils de bite. Voilà. Ouais, j'avoue, elle est pas ouf comme vanne, quoi. Même moi, en la faisant, je me suis dit, tu feras jamais un Olympia avec ça, quoi, c'est clair. Et ça les fait pas rire du tout, quoi. Et ils m'embarquent dans la patrouille.
Tu peux pas boire, tu peux pas uriner dans la rue au Mexique. Mais c'est vraiment pas, genre, la petite loi.
Ouais,
non, ils sont hyper intransigeants là-dessus, quoi. Et...
Bonjour.
Moi, tu vois, mon frangin est venu me voir au Mexique à l'époque où j'y vivais.
Il y a des gens qui
passent. Il est arrivé...
On est devant le bar et en fait, il y a des gens qui passent en peignoir.
En peignoir, oui. Il est arrivé au Mexique. Le soir même, il boit une bière à l'extérieur d'un bar. Deux flics arrivent. Ils ont failli l'embrouiller, quoi.
Ouais.
Et bon, j'ai réussi à le... Mais on a dû lâcher un billet pour qu'il l'embarque pas. Donc ça va hyper vite.
Et il m'embarque dans la patrouille. On fait 10 bornes, 20 bornes. À un moment donné, on sort de Mexico. Je passe sous un tunnel. Enfin, je passe. On passe, ils m'ont pas laissé la bagnole, tu vois. Et à un moment donné, à la sortie du tunnel, je vois un grand bâtiment blanc avec écrit en bleu « Centro Penitenciario Miguel Jonas ». Ce qui veut dire en français « Centre pénitentiaire Michel Jonas ». On le voit plus, hein. Eh bien, le gars, il investit dans des prisons au Mexique. Bien joué. Et là, je passe en comparution immédiate devant un juge.
Ah, moi, je sais absolument pas faire de la création de zéro.
Ah oui.
Parfois, je vais marcher et j'attends qu'une histoire m'arrive, tu vois. Et ça, j'adore le raconter. Tu as du, ouais, c'est du storytelling de choses qui me sont arrivées. Ou alors, parfois, ça ne m'est pas arrivé, mais j'invente la fin qui rend drôle la situation, tu vois.
Mais t'as quand même la base.
Ouais, j'ai la base et ouais. j'ai vraiment ce truc de la pousser assez loin. J'aime okay. bien quand même la pousser assez loin. Tu vois, faire des trucs du genre rester dans le métro une fois qu'on est en terminus.
Ouais.
Moi, j'ai fait ça récemment et le chauffeur, il te voit, il y a des petites caméras. Il dit, monsieur, vous pouvez descendre, s'il vous plaît.
Ah, tu t'es toi-même enfermé dans le métro.
Parce que moi, je voulais savoir à quoi ressemblait la fin du métro. Tu vois, une fois que t'es plus dans le métro.
Ouais, je vois.
Et où est-ce qu'il fait demi-tour? Je me suis toujours posé cette question-là. Est-ce qu'il y a un rond-point au bout, etc. Mais du coup, j'attendais, j'étais debout dans le métro. Et tu sais, le mec, il me dit, monsieur, descendez, s'il vous plaît. Mais vraiment sèchement, quoi. Et je, ah oui, d'accord. Bon, ben, je vais descendre.
Et donc, il est face à moi. Il prend le code pénal. Et il me dit, vous avez uriné dans la rue, vous écopez de 24 heures de prison ou vous payez 200 dollars d'amende pour sortir immédiatement. C'est vous qui choisissez. Moi, à cette époque-là, j'étais étudiant. Les 200 dollars, je les avais pas. Mais à la fois, 24 heures de prison au Mexique, ça me faisait pas sauter de joie non plus, tu vois. J'étais partagé. Même si dans un coin de ma tête, je me disais, la prison au Mexique, c'est pas dans le guide du routard. Si t'en sors, tu pourras raconter. Courrier des lecteurs. J'ai découvert un endroit hors des sentiers battus où je n'ai croisé aucun touriste et qui mérite trois petits sacs à dos, tu vois. Donc, je reste.
Par rapport à ce que je viens de dire concernant les situations que je pousse pour connaître ce qui va se passer,
ouais.
Le Mexique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la prison, il me dit à un moment donné, soit tu payes 200 dollars et ouais. tu rentres chez toi,
soit tu vas en prison.
Soit tu fais les 24 heures de prison. Et en fait, à ce moment-là, franchement, 200 dollars, c'est une somme, mais tu les payes pour pas aller en prison, quoi.
Ouais.
Et là, je me dis, je veux savoir ce qu'il y a dans la prison. Tu vois, c'est pour ça que j'y suis allé, quoi.
Donc en fait, ce que tu dis sur scène, c'est que tu dis, je suis étudiant, j'ai pas d'argent, ouais. du coup, je vais en prison.
Ouais.
C'est faux, c'est que tu t'es mis en danger, parce que.
Ben oui, mais je peux pas dire sur scène que je vais en prison pour écrire un sketch.
Non, c'est sûr. Mais c'est hyper intéressant parce que t'aurais pu le vivre, tu vois, ce
ouais,
truc où j'avais
pas d'argent.
Vraiment,
ce que je me suis dit, c'est que j'adore découvrir des endroits insolites en vacances. Et la prison au Mexique, c'est pas dans le guide du routard. Si j'en sors, je pourrais raconter, tu vois.
Et là, il y a un gardien de prison qui arrive et qui m'emmène à travers la prison jusqu'à une cellule où il y a à l'intérieur 4 lits, 2 lits superposés de chaque côté. Mais déjà, 10 bonhommes en train de dormir. Vous voyez l'ambiance un peu des documentaires sur YouTube, là, avec les mecs torse nus. Franchement, quand ils ferment la porte, le premier truc que je me dis, c'est lequel va m'enculer le premier demain matin, quoi. Ah bah, dans ces cas-là, c'est à ça que tu penses. T'es pas là de dire, merde, j'ai laissé du linge dans la machine. Ça va sentir mauvais demain matin, quoi. En plus, j'ai pas mis d'assouplissant. Suis-je bête? Et il y en avait un qui était plutôt balèze. Je me dis, si c'est lui, ça risque de faire mal, quoi.
Et du coup, la prison, c'est exactement comment tu le décris?
Ouais, ouais, en fait, il y avait des cellules et je me souviens que, en fait, le truc s'est fait à l'envers. C'est-à-dire que dans le sketch, je dis que j'arrive, il y a déjà 10 personnes dans la prison, dans la ouais. cellule. En fait, c'est à l'inverse. C'est-à-dire que je suis arrivé le premier dans la cellule. J'ai cru que j'étais un peu VIP. Et en fait, toute la nuit, il y a des gens qui sont arrivés, quoi. Et au bout du 4e, moi, j'ai dit, bah, c'est bon, on est plein, quoi. Et en fait, on a fini à 10. Et donc, j'avais la tête cachée dans mon t-shirt. J'essayais d'en cacher le maximum et tout ça pour.
C'est ce que je me dis, parce qu'en vrai, quand tu le racontes, c'est drôle. Mais la vérité, c'est que quand ça t'arrive, tu fais pas le fier du tout, quoi. Surtout que les mecs qui sont rentrés, ça devait être, à mon avis,
Il y a un mec, il est arrivé à un moment donné, il avait un t-shirt complètement maculé de sang, quoi. Il y avait du sang partout sur lui.
Ouais. Il s'est présenté, il t'a dit bonjour.
Carnicero, ça lui a bouché.
Et comment ça se passe, du coup, les gens se regardent
Ben moi, en fait, j'avais la tête dans le t-shirt et la tête tournée vers le mur pour pas qu'on me voie.
Ah, tu voulais pas croiser les regards et tout.
Ben non, je voulais pas. À un moment donné, il y avait un type tatoué à côté de moi et tout. Il y en avait des sur le visage et tout. Les mains tatouées, j'étais là, ben voilà quoi.
Et il y en avait un qui était plutôt balèze, Je me dis, si c'est lui, ça risque de faire mal, quoi. Bon, ça, c'est très con, parce que je sais que la taille du sexe n'est pas forcément corrélée au physique. Même si, à mon avis, Teddy Riner, tu le croises sous la douche, tu lui dis vous, quoi. Hein, bref. Donc, j'ai peur. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, il y a comme un monsieur à l'intérieur de moi qui prend le contrôle de mon esprit et qui me dit, Alex, si tu dois en passer par là, en désignant le balèze, là, faut peut-être préparer le terrain. Donc, bah, je commence à m'assouplir l'anus avec les doigts, tu vois.
Quand t'es dans une cellule quand même entourée de mecs, ouais. C'est vraiment à ça que tu penses. C'est vraiment, c'est vraiment ce que j'essaye de faire comprendre aux gens dans le sketch, mais tout en étant drôle, parce que c'est pas une conférence, tu vois.
Non, c'est sûr.
C'est de dire que dans ces cas-là, t'es en mode survie, c'est-à-dire que t'es plus cohérent dans ta tête, tu vois.
Ouais.
T'es plus cohérent, en fait.
Et comment tu l'as construit, cette vanne de si tu crois que c'était une heure sous la douche, tu lui dis vous, qui est vachement drôle.
En fait, j'ai construit cette vanne-là en deux temps. C'est que la première fois, donc le truc, c'est de dire qu'il y avait un mec un peu balèze et ouais. J'avais peur qu'il m'encule. En gros, c'est ça.
Oui,
la blague.
Ouais, ouais. Ouais.
Et en gros, cette blague, elle était un peu...
graveleuse.
Un peu graveleuse. Mm. Et j'avais besoin de l'adoucir un peu par un truc drôle et complètement abstrait, quoi. Enfin, pas abstrait, mais absurde. Pour montrer à quel point je suis un peu con, quoi, tu vois.
Ouais.
Et donc, je me dis, ce serait marrant de dire que, bah, déjà, la taille du sexe correspond pas toujours au physique des gens. Ça, c'est une certitude.
Ça, c'est sûr, ouais.
Donc, qu'est-ce qui peut être symbolique de ce qu'on pourrait croire à une grosse...
Ouais.
C'est forcément quelqu'un de costaud.
Ouais.
Donc, l'idée de Teddy Riner m'est venue. Puis après, moi, c'est une expression que j'utilise souvent, ça... tu lui dis vous ou tu lui dis monsieur à quelqu'un qui en impose.
Ah oui, d'accord. Okay.
Ouais.
C'est
tu
marrant.
Dis pas ça, toi ?
Si, mais pas souvent.
Nous, on dit beaucoup à la campagne, on dit beaucoup. Par exemple, quand quelqu'un a une grosse voiture ou une nouvelle voiture, bah, tu lui dis. Enfin, j'ai déjà entendu dire ça.
C'est ah,
on va lui dire monsieur maintenant à lui. Tu vois ? Ou le paysan qui a le plus gros tracteur, on lui dit vous, quoi.
Donc, bah, je commence à assouplir l'anus avec les doigts, tu vois. Ne me jugez pas, messieurs la main. Je relate une expérience de vie qui peut-être aurait pu vous arriver, quoi. On est en mode survie, là. C'est Mike Horn dans ma tête. C'est Mike Horn au bout des doigts. Et finalement, personne ne se réveille. J'avais les doigts qui sentaient la merde pour rien. Mais à la fois, j'étais soulagé parce que j'avais évité le pire. Puis j'avais découvert un truc qui, bon, bah, je peux comprendre, quoi, tu vois. Et là, je m'endors.
Tu sais, dans les expressions, tu sais, tu utilises souvent quoi ?
Ouais.
Si t'as remarqué.
Si.
Et ça, en fait, t'as l'impression que c'est une construction de personnage parce que quand je te parle là, ouais. T'as l'air beaucoup plus à l'aise. Enfin, t'es pas exactement le même que sur scène, quoi.
Bah, je suis sans doute pas le même parce que la scène, elle provoque un truc quand même.
Ouais, ouais.
Ça s'appelle une forme de stress.
Oui, mais tu travailles en perso ?
Non, pas du tout. Et non. C'est ça mon. Moi, j'arrive jamais avec certitude sur scène, ni je sais comment je vais jouer. Je peux te promettre que la prison au Mexique, je l'ai fait de 10 manières différentes. Le même passage. C'est-à-dire que parfois, je vais monter sur scène et je vais être là en disant bonsoir. Ouais, je m'appelle Alexis Le Rossignol. Ouais, ça va. Tu vois, je fais traîner, par exemple.
Ouais.
Hier, grosse scène, timing, captation. Je fais bonsoir, est-ce que ça va ?
Ah oui.
Je suis rentré avec cette énergie.
Et t'es à l'aise de rentrer avec une énergie complètement différente que celle sur laquelle.
Ok. Parce que je m'en fous en fait. Mais c'est vrai que je peux avoir un ton complètement différent d'un passage à l'autre.
Et le lendemain, on est réveillé vers 7h du matin pour aller petit déjeuner. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir imaginé le pire qui m'a fait voir la vie en rose ensuite. Mais j'ai trouvé le petit-déj excellent. Il y avait du café mexicain, ni trop fort ni pas assez, comme je l'aime, de la papaye, qui est un fruit que j'adore, que j'ai mangé d'une main, et puis des pépitos, bah parce qu'au Mexique, il y a toujours des pépitos, tu vois. Et donc, je suis là, en train de manger, et j'observe les gens qui m'entourent. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de gang, ils ne se connaissent pas. Donc, je me dis, bah, je vais en créer un. Hein. El gang de los franceses. Non, en fait, ils ne se connaissent pas parce que c'est une prison entonnoir. C'est-à-dire qu'ils sont tous arrivés là pendant la nuit et en fonction de la gravité du délit, il y a des gens qui vont aller dans des prisons de haute sécurité ou d'autres qui vont rentrer chez eux, comme moi. Donc ça me rassure parce que je me dis potentiellement, face à moi, il y a des gens hyper dangereux et d'autres un peu moins. Sauf que je sais pas qui est qui. Donc ça me rassure moyennement, quoi. Et j'ose pas aller les voir un par un pour lui dire « Perdona, usted peligroso o tranquilo ?»
Du coup, quand t'étais au Mexique, tu faisais déjà de la scène ?
Je commençais à peine. Ouais. Et ça, ça a été un de mes premiers sketchs en espagnol, du coup.
Ok. Ouais. Donc t'as commencé la scène en espagnol ?
Ben, en fait, j'étais là-bas, j'ai découvert le stand-up là-bas et je me suis dit « Putain, c'est ça que je veux faire dans ma vie, quoi. » Et c'est une révélation dans le sens où je me suis pas dit « Tiens, c'est même pas ma langue, ça va être compliqué, quoi. »
Ouais, ouais. Non, mais c'est étonnant parce que c'est un parcours atypique de commencer dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, à faire des blagues, dans une culture qui est complètement différente, pour ensuite revenir en France parce que c'est ce qui s'est passé. Après, t'es revenu en France et t'as continué le stand-up, c'est ça ?
En fait, j'ai continué le stand-up en arrivant en France, ouais, mais j'avais pris un job à côté quand même parce que j'avais, tu vois, histoire de stand-up, je repartais de zéro, quoi. C'était en 2016.
C'est ça, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'en fait, tu repars de zéro quand tu changes de pays, de culture,
ouais,
de langue.
Bah, j'étais pas grand-chose là-bas, tu vois, mais j'avais fait 2-3 passages télé, des petits trucs comme ça, quoi, mais j'étais pas non plus... j'en vivais pas, quoi. Enfin, si, j'en vivais, mais...
T'es retourné au Mexique, quoi, depuis, parce que ça se trouve, t'as fait un buzz intense, quoi.
Non,
là-bas,
non, mais...
c'était une rosta, en fait.
Non, mais par contre, moi, j'ai des potes qui sont devenus... J'ai un pote qui s'appelle Carlos Vallarta, qui était, okay, qui était mon coloc. Et il est à son troisième Netflix. Il remplit des 5000. C'est vraiment devenu un gros, gros au Mexique, quoi.
Et à la fois, je me dis, bon, ben, ils ne savent pas qui je suis non plus, quoi. Sauf que moi, je rappelle juste que j'ai pissé dans la rue, quoi. Donc, je me dis, si ça se sait, je suis foutu. Et je vois qu'ils m'observent tous, là, depuis un petit moment. En même temps, j'ai des mouches sur les doigts, je peux comprendre. Mais à un moment donné, il y a un type qui se lève, pas très impressionnant physiquement, mais quand même intimidant, quoi. Le gars a notamment des larmes tatouées ici. Vous avez déjà vu ça ? Mais quand tu croises un gars comme ça dans la vraie vie, tu te dis, à mon avis, celui-là, en semaine, il fait pas pousser des endives, quoi. Clairement, il n'est pas dans le business de la salade, celui-là. Et il s'approche de moi, il me fait tout. « Por qué estás aquí ? » Waouh ! Là, je sais pas quoi répondre, quoi. Sauf qu'à ce moment-là, il y a comme un monsieur à l'intérieur de moi, ben sans doute le même mec qui tout à l'heure, Mike Cohn, quoi, qui revient et qui prend la parole à ma place. Et il dit, j'ai buté un mec. Et toi ? Et là, le mec, il baisse la tête, il fait, moi, j'ai pissé dans la rue. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci, Montreux.
C'était... Alexis le Rossignol, mesdames et messieurs.
Et c'est fou, donc cette passion du stand-up, elle est venue de là-bas. Et tu regardais quoi comme stand-up classique là-bas ? Est-ce que c'était des choses un peu plus absurdes ou alors c'était vraiment de tout ?
Non, le stand-up, il est assez similaire. Moi, ouais, je trouve que quand on a une culture en commun et une religion commune... Bon, après, c'est différent dans le sens où nous, on a plusieurs religions en France dominantes, quoi. C'est assez réparti, alors que...
Non, mais il y a le côté latin et le côté...
Il y a le côté latin, c'est ça que je voulais dire. C'est plutôt ça. Ouais. Le côté latin, le rapport à la famille, etc., ça fait un fond de blague, tu vois, ouais, commune, on va dire. Donc, c'était assez facile. Et après, moi, j'ai jamais regardé de stand-up américain et tout, donc j'avais pas de référence. J'ai vraiment appris en écrivant mes vannes, tu vois.
Ouais.
Mais j'avais pas de référence. Moi, c'était Coluche à l'époque. Coluche et puis les cassettes de...
Tu dis à l'époque, c'était quand ?
Non, mais quand j'étais petit, tu vois, ouais, avec mon père, on écoutait les cassettes de Coluche dans la voiture ou on écoutait... qu'est-ce qu'on avait
Ah, donc t'avais déjà une petite passion pour les gens qui racontaient des histoires, entre guillemets.
Ouais, mais je me disais jamais que c'était accessible pour moi.
D'accord.
Mais pour une raison toute conne, c'est que je pensais que pour faire de la scène et tout ça, fallait être né à Paris, en fait. Tu vois, je me disais, mais c'est pas accessible à des gens qui n'ont pas déjà des amis dans le milieu.
Ouais.
Quand je voyais Drucker à la télé, je me disais, bah, c'est comme un peu un président de la République. Tu peux pas vraiment lui parler dans la vie, tu vois.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as beaucoup plus de comedy clubs qui vont s'ouvrir dans des petites villes, tu vois. Genre, moi, je viens d'Angers, par exemple, il y a un comedy club, ouais, qui s'est ouvert, c'est assez récent. Ouais. À Dijon, ce genre de choses, ouais, quoi. Avant, il n'y en avait que à Paris.
Ouais.
Et que à Marseille, peut-être. Tu vois. Et donc, du coup, ça se démocratise vachement plus. Et tu vois effectivement des stand-upers qui arrivent de Nantes, comme Paul Mirabel.
Ouais, ouais. Vois. Mais Paul, il n'est pas de Nantes, hein.
Ah bon?
Il est de Montpellier.
Mais pourquoi on m'a dit qu'il était de Nantes ?
Non, non, il est venu à jouer à Nantes plusieurs fois. Mais...
Ah, d'accord, ok.
À Nantes, il y a une grosse, grosse team de bons stand-uppers, quoi.
Ouais, c'est ça.
Kevin Robin, Edgar Eve, il vient de Nantes. Moi aussi, en fait, quand je suis arrivé en France, retour du Mexique, j'ai vécu à Nantes.
Et c'est marrant parce que tu fais du stand-up au Mexique, tu reviens en France et tu t'installes à Nantes plutôt qu'à Paris.
Ouais, parce qu'en fait, mes parents viennent de la région par
d'accord,
là-bas.
D'accord, ok.
Et puis j'ai trouvé un job à Nantes, quoi, tout simplement.
C'était quoi ?
Je bossais dans une start-up, j'étais commercial, quoi.
Ah, donc c'est vraiment aussi ce que tu racontes,
ouais,
sur scène.
Okay. Ouais. J'aime bien que ce que je raconte sur scène soit ancré dans une réalité qui soit accessible à tous.
Ben, c'est parfaite transition, parce que tu as fait un deuxième passage sur le YouTube de Montreux, où, qui s'appelle Le Rouler au Jambon,
ouais.
Où pour le coup, on a quand même plus l'impression d'aller, d'aller sur un humour un peu plus absurde qui pourrait ressembler à Fraise ou un truc comme ça, quoi. Et ça, c'est aussi un truc qui te fait kiffer, quoi. C'est-à-dire que tu me disais, comme tu me disais hier soir, ouais. Tu aimes bien varier complètement les styles quand tu montes sur scène.
Ouais, en fait, c'est-à-dire que je me lasse très vite des choses.
Ouais.
Et je pense, si j'étais réalisateur de ce film, par exemple, j'aimerais faire de la comédie, du drame, etc. Tu vois, j'aimerais varier.
Varier les genres, quoi.
Ouais, varier les genres. Donc, scéniquement, j'ai envie de varier les genres. Ça me dérange pas de faire un moment d'absurde, un moment de... Même, j'aime bien provoquer du malaise.
Moi, j'aime bien le jambon. Souvent, j'en achète, puis avec, je fais des rouleaux à la Macédoine. Vous connaissez ? Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez simple. Tu vas au supermarché, tu achètes une boîte de Macédoine. Moi, j'aime bien la bonduelle, parce que les autres, je trouve qu'elles ont des petits grains de haricots que je digère mal. Tu vois. Après, tu prends de la mayonnaise, tu rentres chez toi, là, tu ouvres ta boîte de Macédoine, et tu l'égouttes sur une passoire, tu vois. Puis après, tu la verses dans un bol et tu rajoutes une ou deux cuillères à soupe de mayonnaise et tu mélanges comme ça. Puis après, tu fourres tes tranches de jambon et tu les roules. C'est vachement bon. Hein. Puis c'est inratable, quoi. Sauf si tu mets trop de Macédoine dans le jambon, parce qu'à ce moment-là, la tranche elle a tendance à se rouvrir. Et après, ça a le même goût, hein, mais c'est moins beau, quoi. Alors, le jambon... Je ne le prends pas au supermarché, le jambon. Je prends chez le charcutier, parce que je trouve qu'il est meilleur, quand même. Ah, il est plus cher, certes. L'autre jour, j'ai payé 18,90 du kilo, je crois. Alors que le jambon Fleury Michon, par exemple, qui est déjà un bon jambon de supermarché, il est à 15,50 à peu près, quoi. Et parfois, tu as des promotions, tu peux même avoir une tranche gratuite. Ce que tu n'as jamais chez le charcutier, quoi. Mais bon, vaut mieux en manger moins et du meilleur. Alors l'autre jour, je suis allé chez le charcutier, mais j'ai déménagé récemment, donc je ne le connaissais pas. Donc j'arrive, je dis bonjour, il me dit bonjour, salutations réciproques, tout ça. Puis je lui dis, je voudrais deux tranches de jambon, s'il vous plaît. Et là, il me dit, je vous en mets des normales ou des belles ? Donc j'y là, on est tombé sur un champion. Je dis, pourquoi les normales, elles ne sont pas belles ? Il me dit, si, mais les belles, elles sont grosses. Oh, je lui dis, d'accord. Faites-vous, pour dire grosses, vous dites belles. Il me dit, oui, c'est plus commerçant. Puis à ce moment-là, il y a sa femme qui sort de l'arrière-boutique. Une petite femme un peu boulotte comme ça. Je la regarde, je lui dis, elle est belle, votre femme.
Au début, j'ai commencé comme ça. Les rouler au jambon, c'était un de mes premiers sketchs. Je montais sur scène où je parlais très lentement, je parlais avec un air un peu désabusé, nonchalant, etc. Qui n'était pas vraiment ce que je suis dans la vie, mais qui sur scène était très efficace. Par contre, dès que j'ai commencé à faire des 20 minutes, une demi-heure, j'en avais plein le cul de ce personnage. J'avais envie de parler normalement, tu vois. J'avais pas envie de faire mon... En fait, ce truc, quand je fais les rouler au jambon, j'ai un peu, c'est un peu un crétin, quoi, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Un peu un attardé, quoi, le mec. Et bon, bah, quand je le fais, je suis en train de réciter ça, mais je me vois extérieurement. Le clown, en fait, si tu veux.
Ouais, je ne sens pas attardé. Je trouve qu'il y a un flegme de... en fait, tu as quelqu'un qui rentre et il ne comprend pas l'enjeu.
Ouais.
En fait, d'être là sur ouais. scène devant les gens ouais. et il raconte des banalités. Mmh. Et c'est ça qui nous fait marrer. Parce que ça nous...
Ouais, ouais.
Tu sais, sur scène, tu as un sac à dos de rando un peu. Ouais. Tu es habillé quand même dans un look un peu... comment tu dis limite ringard, quoi.
Enfin, non, j'ai le sac à dos de le petit sac à dos Décathlon à 2,99€.
Ouais, c'est ça.
J'aime bien faire les courses, moi. Je trouve ça relaxant, tu vois. Quand tu fais tes courses, tu penses à rien d'autre. Sauf si t'as oublié ta liste de courses. Et là, tu penses à ta liste de courses, quoi. Il y a un truc qui m'énerve, par contre, c'est quand t'es à la caisse, c'est les gens qui attachent beaucoup d'importance à mettre la petite réglette client suivant entre leurs articles et les tiens, tu sais. Ah, ça m'énerve, ça. T'as l'impression que quand ils mettent la réglette, ils ont bien fait leurs courses, quoi. Moi, j'ai jamais beaucoup d'articles. Parce que je suis tout seul, quoi. Alors, à part si j'ai un melon qui peut éventuellement rouler... Avec l'inertie, il n'y a pas de confusion possible. En plus, je laisse toujours défiler 30 ou 40 cm de tapis, mais parfois, ça ne suffit pas. La semaine dernière, il y a une dame, elle a pris la réglette, elle l'a mis entre nos articles, elle m'a regardé, elle m'a dit « C'est mieux comme ça. » Mais c'est quoi ? Le monde est mieux comme ça, madame ? Cette dame, elle avait un long poil blanc, là. J'ai approché la main, j'ai tiré un coup sec dessus. J'ai dit, c'est mieux comme ça, madame. Elle m'a dit merci.
Moi, j'aime bien que ce que je raconte sur scène soit ancré dans une espèce de banalité, de futilité du quotidien, en fait. Moi, ouais. je prétends pas faire passer de grands messages, etc. Mais j'aime bien la futilité, j'aime bien la banalité. Moi, j'aime bien les choses du quotidien qui sont liées à la télévision, aux journaux, à des images qu'on voit collectivement, à YouTube, à ces trucs qui défilent là de rénovation d'outils anciens, de conneries comme ça, tu vois. Oui. Tout ce temps qu'on perd en commun, nous tous.
Ouais.
Tu vois.
Ouais, ouais.
D'une manière presque consciente.
Je suis un peu fatigué, moi. C'est vrai, j'ai fait une sieste cet après-midi, mais pas suffisant, quoi. C'est le confinement, ça m'a vraiment ramolli, quoi. C'est vrai, je sens que j'ai perdu en tonus, par exemple. Tu te rends compte que tu perds en tonus quand tu te fais voler ton portable à l'arraché et tu fais juste « Hé !» Et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de tentative de course-poursuite, c'est juste « Oh putain !»« Oh la chienne de vie !»« Ça devait m'arriver !» Et j'ai pas raccroché. Il va parler à ma mère. Elle va pas s'en rendre compte. Elle va lui dire, viens manger dimanche. Passe par le garage, ce sera ouvert.
C'est pour ça que je regarde beaucoup d'émissions de l'après-midi, là, par exemple sur France 2. Enfin, je les regarde en replay, des trucs comme ça. Ou alors les reportages du week-end. Tu vois, genre 13h15 ouais, ouais. le dimanche, ou reportages sur les compagnons du Tour de France, des mecs qui font de l'artisanat et qui... Tu sais, j'aime bien, quoi.
Et donc, tu disais que tu commences ton spectacle des fois en racontant 10 minutes de télé, quoi.
Ah ouais, mais même souvent, quoi. C'est-à-dire presque à chaque fois. Je dis, j'ai fait une sieste après-midi, là, puis j'ai regardé ça après, en me réveillant. Par exemple, l'autre jour, c'était sur des gens qui ont fait construire leur maison. Et leur maison, en fait, elles ont été mal construites. Donc, ils sont en train de manger dans leur salon en famille. Et il y a une brèche d'un centimètre qui court tout le long du mur, ouais. à travers les parpaings. Et ils voient les gens se garer dans la rue à côté, quoi. Et ils sont obligés de vivre dedans parce qu'ils ont fait un crédit pour ça. Donc, en gros, ils sont là dans leur maison. Et tu sais, ça me fait de la peine. Et à la fois, je me dis, j'arrive à faire rire avec ça, mais c'est pas un rire méchant. C'est non, un rire, ça aurait pu nous, ça peut nous arriver aussi, tu vois. Je vais pas rire de la situation, mais je vais rire de ce qu'on est, nous, à s'endetter pour construire des maisons, pour construire des trucs, et les rêves qui s'envolent, des choses comme ça, tu vois.
J'ai des potes qui me disent, fais gaffe, après 35 ans, on grossit vite. Eh ben, je m'en fous. Et ça, je vous le donne, hein. Vous avez un souci dans la vie, vous dites, je m'en fous, et vous y croyez fort, y a plus de souci, hein. Les impôts t'appellent, vous avez pas payé, je m'en fous. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer un huissier? Je suis en sous-loc, bienvenue. Prenez le chien, il m'emmerde. Et la vie, elle devient tellement agréable dès lors que tu te libères des injonctions à faire des trucs que t'as pas envie de faire. Les escape games. Non ! J'ai pas envie de payer 28 euros pour m'enfermer dans une salle qui s'appelle Favela à Rio un samedi après-midi alors qu'il fait beau dehors. Tout ça pour fêter l'anniversaire d'un ancien collègue que j'aime pas beaucoup, pour qui j'ai déjà mis 5 euros dans la cagnotte Litchi. En masqué, sauf qu'on est 10 à avoir donné, je suis le seul à avoir masqué mon don. Donc tout le monde a fait son petit calcul. Et tout le monde sait que je suis un crevard. Je veux pas vivre ça, messieurs.
C'est des histoires qui te passionnent, donc du coup, tu regardes la télé pour raconter des histoires sur scène, pas forcément.
Je regarde la télé, alors j'ai un peu ce défaut du mec qui fait de la scène, c'est-à-dire que j'essaye toujours de capitaliser ce que je fais.
Ouais.
Pour en faire des vannes, pour, par exemple quand je suis en voyage, quand je suis là dans un hôtel de luxe, je note des trucs, tu vois.
Ouais.
Moi, je suis un prolo ici, tu vois. la nana, enfin au petit.
Ouais, ici on est au Palace à Montreux, donc c'est vrai que c'est un truc hyper standing pour les artistes.
C'est incroyable, c'est ouais. un hôtel de folie, c'est 5 étoiles. Et à chaque fois que tu manges un truc et que t'as fini, il y a quelqu'un qui te prend ton assiette
ouais.
pour te l'en changer. Alors que chez toi, tu manges sur la nappe, quoi. Le matin, le petit déj, tu te fais tes tartines sur la nappe, t'as même pas d'assiette, elles sont sales, elles sont dans l'évier. C'est ce que je trouve marrant dans la vie, c'est que tu peux accéder à un truc un peu illusoire pour quelques jours, et puis après, tu rentres dans ton quotidien, tu vois.
Et toi, tu peux pas en profiter sans aller sur des détails, sur des choses qui te marquent un peu pour en construire des vannes?
Si, mais si. C'est comme, pour moi, c'est un peu comme le mec qui est le touriste, qui peut pas s'empêcher de prendre quand même des photos.
Ouais.
Alors qu'il les développera pas forcément, tu vois.
Okay.
J'ai un peu le japonais en vacances. C'est-à-dire que je note, j'ai toujours mon téléphone avec moi, je prends des notes, etc. Mais je suis quand même dans un truc où je me prive pas de kiffer un peu, quoi. Tu vois.
Bah
je suis
ouais,
pas esclave
ouais.
de l'humour.
Et pourtant, avant, j'étais fort en sport. J'ai même été champion de taekwondo. jure, c'est vrai, il y a quelques années, je m'étais inscrit au taekwondo en me disant, si un jour tu te fais agresser, c'est bien de savoir te défendre. En fait, il vaut mieux apprendre à courir vite et longtemps. Eh oui, parce qu'en général, un mec qui t'agresse, il t'a observé, il t'a jaugé et il sait qu'il est plus fort que toi. T'as rarement un mec d'1m40 qui arrive, qui te met des coups de pied dans le tibia comme ça, en disant, toi, je vais te défoncer. C'est très rare, quoi. Mais j'ai bien aimé parce que le premier jour, je suis arrivé, ils m'ont dit, vous voulez faire du taekwondo traditionnel ou des pumsé? Pumsé, j'avais jamais entendu ce mot-là, moi. J'ai l'impression que c'était un dessert sucré, tu vois. Donc j'ai dit pumsé. En fait, pas du tout, hein. C'est des mouvements de taekwondo sans adversaire, comme ça. Oh, j'ai adoré, quoi. Pendant 2 ans, j'arrivais en confiance sur le tatami, avec ma ceinture blanche. J'étais là, boum par-ci, boum par-là. Sur le papier, j'étais ouf en baston, quoi. Sauf qu'un jour, ils m'ont inscrit de force à une compétition, parce qu'il manquait de participants. Moi, j'aimais bien quand les participants, ben, il n'y en avait pas, quoi. Mais j'y suis allé pour représenter le club, et il s'est trouvé que dans ma catégorie, on était 3. Moi, ceinture blanche, et 2 ceintures noires.
Du coup, t'as vraiment fait du taekwondo, comme le Mexique.
Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
Et t'as vraiment fait du pumsé.
Ouais, alors en fait, moi j'ai fait du Krav Maga, de la capoeira, du taekwondo. En fait, j'ai toujours bien aimé ces choses-là, mais j'ai toujours été un peu nul, quoi. Donc, la fois où j'avais gagné les championnats de taekwondo, c'était les championnats académiques,
ouais,
à Nantes. On était pas trop, on était 5 dans la catégorie.
Ouais.
Ce qui s'est passé, c'est que il y a un type, c'était vraiment incroyable. Je fais le premier round, je tombe contre un mec qui était avec moi à Angers.
Okay.
Qui était beaucoup plus petit que moi et que, bon, j'ai battu avec assez rapidement. Et puis, y a un autre mec de son côté tout seul, il se casse une cheville. Mais il se casse une cheville tout seul en faisant, en s'entraînant.
Ah, non, quoi. Ça, ouais.
Enfin, il se fait une entorse, quoi. Donc, okay. On n'est plus que 4.
Moi, j'étais comme ça à bord du tatami, je me disais, bon, ben, l'un ou l'autre, je vais prendre une volée, hein. Ça va être très clair. Est-ce que c'est pas le moment de se casser une cheville tout seul, tu sais? Eh bien, j'ai beau avoir insisté, ça n'a pas cédé. Parce que je m'étais trop échauffé. Comme quoi, parfois, ton corps t'abandonne. Donc, ils ont commencé le combat.
Et dans l'autre demi-finale, en fait, il y a un mec qui fait tomber son adversaire à terre et il lui met un coup de pied dans les dents, alors que l'autre est à terre. Ce truc complètement interdit, quoi. Et il se fait exclure. Et l'autre a les dents pétées, donc il va à l'hôpital. Donc j'ai gagné le combat. Enfin, j'ai gagné le championnat, tu vois. En faisant un combat qui a duré 20 secondes.
Franchement, les gars étaient très rapides, hein. Impressionnant. Sauf qu'au bout d'une minute, ils ont eu la même idée. Ils se sont mis un high kick dans le nez, comme ça, en même temps, nez cassé tous les deux, forfait, j'ai gagné la compétition. Et bien ce jour-là, j'ai arrêté le taekwondo au sommet de ma gloire.
Donc c'est, en fait, c'est juste, il faut que tu te mettes en danger dans ta vie, ou en tout cas, il faut que tu essayes de faire des trucs pour qu'il t'arrive des blagues.
Ouais.
Vous connaissez le Mud Day? Courir dans la boue et payer pour ça. De Mud qui veut dire courir et Day dans la boue. Je veux pas faire ça. Franchement, pour moi, ça, c'est ce qui symbolise l'ennui des Français, quoi. Franchement... Moi, je propose un truc humblement, c'est qu'on appelle les jeunes Allemands, on leur dit « Bon ben les gars, nous on en est à payer pour courir dans la boue, est-ce que vous seriez pas chaud pour une petite guerre ?» Voilà, on remet ça comme en 40, hein. Nous on remet l'Alsace-Lorraine en jeu, ça fait 100 ans qu'on les a récupérés, on n'en tire rien, ça augmente juste le taux de chômage, ça fera moins de fait entrer l'accusé, mais on prend le risque, tu vois. Est-ce que vous croyez qu'en Syrie, un peu où il y a la guerre depuis 10 ans, les gens ils font du Mud Day? Tu crois qu'ils sont là? Mohamed, oublie pas, hein, dimanche on a Mud Day pour le plaisir. Inch'Allah, t'es pas mort avant. Non, en fait. Non. On vit dans un monde de fous, messieurs.
J'aime bien, moi, la blague du Mud Day.
Ouais.
J'ai vu que tu l'avais fait au Paname aussi,
ouais,
en vidéo, et ouais, tu l'avais refait au Pop-Up. J'aime bien comment elle est construite et tout. J'aimerais savoir d'où ça t'est venu.
Le Mud Day, c'est courir dans la boue. Et donc, c'est des nouvelles activités, tu sais, parce que les gens, ils ont besoin aujourd'hui de faire des trucs qui relèvent presque de l'exploit, tu vois. La Spartan Race, le Mud Day, des trucs où ils finissent dégueulasses, ils ont l'impression d'avoir retourné... Enfin, tu vois, je trouve que, pour moi, c'est ce qui symbolise un peu une forme d'ennui, c'est-à-dire qu'on fait des activités un peu hors du commun,
ouais, bonjour,
pour vivre des choses que notre vie nous donne plus, en fait, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on soit quand même très sur nos téléphones, etc., fait qu'il y a des gens qui font payer très cher des retraites où on te prend ton téléphone. C'est quand même absurde que tu dois payer des entreprises qui te privent de ton téléphone et qui te privent de bouffe aussi. Ça, ouais. C'est des retraites spirituelles et diététiques. Ça coûte 500 balles la semaine et ils te donnent 3 mars, quoi. Tu vois ?
Et ça, c'est quelque chose que tu veux pas dénoncer, j'arrive pas jusque-là, mais c'est quelque chose que tu te dis, c'est pas possible qu'on dise rien dessus. Et du coup, t'as envie de raconter des
choses
dessus.
Mais après, pour moi, c'est une évidence, quoi. En fait, c'est l'absurdité du monde dans lequel on vit. C'est au Mexique, il y a un endroit qui s'appelle la Ruta de los Migrantes, qui est un parc d'attractions,
ouais,
dans lequel ils ont recréé toutes les épreuves que traversent les migrants.
Ouais, ouais.
Donc, il y a de la jungle, des rapides, du désert. Et je trouve ça hallucinant parce que c'est sur la route des migrants. C'est-à-dire que les migrants vivent un truc horrible. Et en parallèle, on crée un parc pour aller divertir des familles et faire comme les migrants. On est vraiment en train de parler d'un mec qui crée un parc d'attractions qui s'appellerait La Jungle à Calais.
Ouais, ouais, ouais.
Pour tester l'expérience des migrants, quoi.
On vit dans un monde de fous, messieurs-dames. Et ouais, au Mexique, ils ont ouvert un parc d'attractions qui s'appelle La Ruta de los Migrantes. La route des migrants. Je jure que c'est vrai, c'est un parc d'attractions dans lequel ils ont recréé toutes les épreuves que traversent les migrants avant d'arriver aux États-Unis. Il y a du désert, des rapides, des montagnes et tout. Cynisme absolu, quoi. Et les vrais migrants, ils passent dans cette ville, à côté du parc. Ils sont là, on n'a pas les moyens, on va le faire en vrai. Et ils meurent. On vit dans un monde de fous, quoi. Regardez les féministes. Vous trouvez pas qu'elles ont plombé l'ambiance ? On était pas bien avant, à la fraîche, décontracté du gland. Non, je fais une blague là-dessus, parce que moi, j'ai découvert le féminisme un peu tard. C'est avec MeToo et Balance ton porc. Franchement, j'ai été content d'apprendre que j'avais respecté le cahier des charges sans l'avoir lu, tu vois. Mais avant, j'y connaissais rien, quoi. Il y a 4 ans, j'ai rencontré une fille qui m'a dit, avant qu'on aille plus loin, je veux que tu saches que je suis féministe. Ben moi, à l'époque, je lui ai dit, écoute, ça me dérange pas. Déjà, sache-le. Moi, je joue au tennis le dimanche matin. T'auras qu'à faire ton féminisme à la même heure. Après, tu nous prépareras un bon petit plat. Puis on mangera ensemble, quoi. Je veux dire, je vais pas interférer dans tes loisirs. Voilà, je suis un mec bien. Du moment que la maison est bien tenue, moi, y a pas de... Y a peut-être des gens qui connaissaient déjà cette vanne-là. Ce que j'ai déjà faite et elle est sur YouTube. Du coup, pardon. Hein, je m'excuse. Enfin, non, je m'excuse. En fait, j'anticipe parce qu'il y a souvent des gens qui attendent à la sortie puis qui disent « c'était top ». Mais franchement, la vanne du féminisme, on la connaissait déjà, quoi. Donc pardon, voilà. C'est vraiment propre à l'humour, ça. Hein. Personne fait chier Michel Sardou à la sortie d'un concert en lui disant « hey Michel, c'était top, hein. Mais les lacs des Connemara, franchement, on a plein le cul. Hein. Si tu pouvais te renouveler un petit peu. » Merci beaucoup, monsieur.
Donc tu passes ta journée de travail, si je me lève, je vais essayer de faire des trucs, je vais aller au taekwondo, peut-être que je vais faire une autre activité, de l'aviron.
Ouais.
Le soir, je vais sur scène, j'en parle, je regarde si ça prend. Et
bah, faut vivre des trucs, hein, faut vivre des trucs en permanence, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a rien ne te dit que telle ou telle activité va te donner une vanne. La vanne, elle peut être dans le bus, dans le métro, chez le boucher,
ouais,
en allant au sport, en allant à la poste, enfin,
en allant dans un palace.
Elle est partout, mais faut juste... En fait, je dirais que c'est une gymnastique de l'esprit, l'humour.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, ton esprit, il est toujours en mouvement pour chercher l'humour, pour voir là où il y a des choses à voir, tu vois. Alors que les gens qui n'ont pas ça, eh ben, ils voient pas ces petits détails que nous, les humoristes, on voit. C'est pour ça que quand on les dit, ils disent « Ah oui, c'est vrai », tu vois. Oui. Et par exemple... Moi, je pense que quand tu fais de l'humour, tu peux jamais arrêter. Ça rend trop triste d'arrêter. Il y a plein de gens qui font de l'humour et qui ça marche pas, mais ils continuent. Et beaucoup d'artistes, je les entends souvent dire, putain, mais il devrait tellement arrêter lui. Et moi, je dis, bah non, en fait, tu peux pas lui voler son truc. Il a envie de faire ça. Il fait de mal à personne. C'est une activité qui est cool, qui est euphorisante, qui est intellectuellement passionnante. Et je considère que chaque personne peut en faire, même si t'es pas très drôle. Tu fais pas non plus grand mal au métier, quoi. Tu vois, ouais. Quand j'entends ça fait mal au métier, oh, ça va, quoi.
Non, Mais c'est vrai que si t'es fragile, ça peut te faire mal à toi-même d'être jugé par des gens. Tu vois, sur scène, je pense que les gens, ils ont peur, tout simplement.
Ah ouais, mais ça, c'est clair. Bon, après, les gens, personne ne les oblige à faire de l'humour. Hein.
Non, c'est vrai.
Moi, quand on me dit « je pourrais pas faire ce que tu fais », putain, très souvent, j'ai envie de dire « je pourrais pas non plus faire ce que tu fais, toi, quoi ». T'es toute la journée devant un ordi avec un fichier Excel. Excuse-moi, mais je pourrais pas, quoi. Tu vois ?
Ouais. Bah, c'est vachement bien. Enfin, moi, j'ai à peu près tout ce que okay. je voulais entendre.
Bon,
bah,
c'est cool.
Mais il y a juste un truc. Est-ce que t'as un humoriste ? J'aime bien finir, en fait, les podcasts ouais. sur un humoriste qui te plaît ou quelqu'un à qui tu penses ou quelqu'un qui t'a inspiré, peut-être, dans
bah, en fait, tu vois, hier, ce que je me disais par rapport à ce que je faisais, moi, au début, quand je faisais les roulés au jambon et tout ça, c'est je me disais un mec comme Julien Santini, il ouais. fait ce que moi, je n'ai pas fait en termes de pousser le clown. Tu vois
ouais, ouais, ouais.
C'est un type qui pousse le clown. Aymeric le fait aussi, Aymeric Lompré. Ouais. C'est deux mecs qui, pendant leur passage qui dure 7-8 minutes, c'est complètement con, absurde et tout, mais c'est hyper tenu, quoi. C'est-à-dire que comme ils ont fait 4 passages et moi je les ai vus, c'est quand même à la virgule près les mêmes passages.
Ouais.
Et ça, je trouve ça fort, tu vois. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les maîtres sont en train de péter un câble sur scène et que ça sort du chapeau à l'instant où ils le disent.
Ouais.
Et en fait, c'est bien travaillé, quoi.
Merci beaucoup.
Bah, je t'en prie, écoute, c'est cool. Merci à toi.
Bonsoir à tous. S'il vous plaît, et allez. C'est parti pour 7 minutes de rire. Il n'a pas encore dit un mot. Mais jusqu'où ira-t-il? Alors, s'il vous plaît, continuez de rire si à un moment il venait à y avoir moins de rire. Je vous en supplie. Forcez-vous. Moi, quand j'étais petit, when I was a young little fat boy, ma mère toujours me disait « Julien, parfois dans la vie, on n'a pas envie de faire les choses, on se force. » Et elle citait une phrase de Confucius qui a dit « Lorsque le viol est inévitable. Détends-toi et profite. » Donc une enfance assez détendue.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.